Chers frères et sœurs, chers amis, je vous invite à la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, nous nous courbons devant ta face ce matin. Nous nous prosternons devant toi comme nous y invite David dans le psaume que nous venons de lire. Et Seigneur, ce matin, nous désirons célébrer ton nom à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Ce n'est pas n'importe quel Dieu que nous adorons ce matin, nous ne nous présentons pas devant n'importe quelle divinité ou idole, mais devant le Dieu des cieux, le Dieu souverain et tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Seigneur notre Dieu, en nous présentant ainsi devant toi, nous constatons également notre faiblesse, notre petitesse, et il est légitime, éternel, que devant toi, nous nous regardions et voyions tels que nous sommes. Mais grâce te soit rendue, Seigneur, c'est un Dieu puissant, souverain, glorieux, saint, majestueux, que nous rencontrons ce matin, mais nous le rencontrons pour nous qui nous sommes confiés en Jésus-Christ comme des enfants bien-aimés, en vérité, en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ, pour nous. Et Seigneur, ce matin, nous désirons vraiment te rendre un culte, nous souvenant que si nous sommes ici, si nous te connaissons, si nous pouvons t'adorer, c'est parce qu'un jour tu as envoyé ton Fils bien-aimé, afin qu'il vienne ici-bas, Seigneur, et qu'il meure sur une croix à cause de nos péchés. Qu'il porte sur lui, Seigneur, toutes nos vanités, toutes nos désobéissances, toutes nos offenses, ta loi que nous avions bafouée, afin qu'il paye à notre place la colère, Seigneur, le prix de notre désobéissance, et qu'il supporte à notre place la colère que nous devions supporter. Ainsi donc, nous sommes aujourd'hui en paix, tu es notre Père, nous pouvons t'admirer, et nous savons que tu prends soin de nous, et nous pouvons donc célébrer ton nom. Nous savons, comme le dit le psalmiste, que lorsque nous t'invoquons, tu nous réponds, et tu nous donnes, lorsque nous sommes faibles, Éternel, de la hardiesse et de la force. Éternel, notre Dieu, loué sois-tu et béni sois-tu pour notre salut, pour le salut que tu accordes en Jésus-Christ, pour ta bienveillance et ta fidélité, à notre égard, à l'égard de ton Église, à l'égard du monde dans lequel nous vivons. Car Éternel, même si un grand nombre de nos contemporains ne te connaissent, même si un grand nombre d'entre eux, Éternel, te rejettent, il n'en demeure pas moins que tu fais preuve de bienveillance et de grâce, de bonté à leur égard. Et nous te prions ce matin afin que un grand nombre d'entre eux soient donc saisis, Éternel, par ta bonté, par ta personne, Seigneur, que beaucoup puissent entendre l'Évangile et soient sauvés. Et que tel soit le cas, Éternel, dans cette ville, que tel soit le cas dans ce canton et dans ce pays. Que l'Évangile soit prêché en vérité, qu'un grand nombre d'âmes soient sauvées, qu'un grand nombre de disciples, Éternel, apprennent à te connaître et à donner leur vie en sacrifice à ta gloire. Seigneur, ce matin, nous avons une pensée pour les frères et sœurs de notre assemblée qui ne peuvent se joindre à nous pour différentes raisons, et en particulier ceux qui sont accablés par l'épreuve et par la maladie, te demandant ce matin encore que ta bonté et ta bienveillance reposent sur eux, que tu les soutiennes puissamment dans leur corps et dans leur âme. Nous te prions pour ton Église, pour nos frères et sœurs, pour tes serviteurs qui sont appelés à prêcher ta parole, te suppliant afin que tu les renouvelles intérieurement, que la parole qu'ils annonceront, Seigneur, soit ta parole, afin que, Seigneur, tu puisses parler au travers de tes serviteurs. Que ton peuple, Seigneur, soit sanctifié, réveillé si nécessaire, et qu'il puisse vraiment porter un témoignage à ta gloire, rayonner, Seigneur, partout où il se trouve. Ô Éternel, que cette journée que tu mets à part, Seigneur, pour toi, que cette journée vraiment te glorifie. Nous te demandons, Père, une attention particulière lors de la lecture et de la prédication de ta parole, non seulement pour ceux qui seront dans cette pièce, mais pour les enfants aussi à l'école du dimanche. Et nous te demandons que cette parole soit efficace. Éternel, notre Dieu, sois glorifié aujourd'hui. Telle est notre prière, dans nos vies, dans notre Église, dans le monde. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
J'aimerais lire ces quelques mots, versets tirés du livre de l'Apocalypse au chapitre 1, les versets 5 à 7. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant dans la première épître de Paul à Timothée. Et nous allons lire ensemble au chapitre 6, les versets 6 à 10. Ce sera le texte de la prédication de ce matin. Certes, c'est une grande source de gain que la piété si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Voici donc le texte de la prédication de ce matin, tiré donc de cette épître de Paul à Timothée, prédication qui continue donc notre série sur le contentement. Chers amis, chers frères et sœurs, la fois passée, il y a 15 jours, plus précisément, nous avons découvert avec l'apôtre Paul que le contentement n'est pas quelque chose d'inné, mais que c'est quelque chose qui s'apprend au gré des circonstances de notre vie. Nous allons découvrir ce matin, toujours dans cette série, comme je le disais il y a quelques instants, sur le contentement. Et vous verrez qu'il y a des liens évidents avec le message précédent, que si l'appât du gain, la cupidité, conduit inévitablement, nous en rentrerons dans les détails dans quelques instants, ceux qui s'y adonnent au mécontentement et à la souffrance, être attaché à Dieu et se satisfaire des biens qu'il nous donne dans sa bonté est une grande source de joie, de paix et de contentement. Très rapidement dit, lorsque Paul écrit ces versets que nous venons de lire il y a quelques instants, il fait référence à certains hommes dans l'Église et à Éphèse en particulier qui pensent que l'Évangile sera pour eux une source de gain, qu'ils pourront gagner beaucoup d'argent en annonçant l'Évangile. Et il montre qu'ils se leurrent. Et l'histoire de l'Église est très certainement là pour le montrer. Alors, voilà en tout cas en ce qui nous concerne un sujet d'actualité, puisque nous vivons dans une société de consommation où l'acquisition de l'argent, où l'attrait de biens et de richesses sont censés être les principales sources de bonheur. Et on pourrait presque dire que le leitmotiv de nos contemporains aujourd'hui est ou serait le suivant, « J'ai et je consomme, donc je suis heureux ». Et les chrétiens, malheureusement, n'échappent pas à cette triste réalité, puisque nous sommes dans ce monde, au sein de ce monde, et sous l'influence aussi souvent de ce monde. D'où l'importance de considérer ce matin avec l'apôtre que si posséder et dépenser est possible et légitime, donc ne nous leurrons pas ce matin. On a de l'argent, il est juste d'en avoir, de posséder, de consommer. Paul ne condamne pas l'argent en tant que tel, mais son amour exclusif. Si donc, il est possible de dépenser, il est légitime de dépenser, ce n'est pas dans l'épaisseur de notre portefeuille, ou ce n'est toutefois pas dans l'épaisseur de notre portefeuille, et dans l'acquisition de nos biens ou de biens en quantité que nous découvrirons le vrai contentement. Celui-ci se trouve en Dieu et en Dieu seul, et dans la joie et la simplicité de profiter, de tirer profit et bénéfice de ce qu'il nous donne. Le titre de la prédication est celui-ci. La piété et la simplicité, septième source du contentement. J'aurai donc trois points. Le premier, l'amour de l'argent ôte tout contentement. Le deuxième, la piété et la simplicité secret du contentement. Et le troisième, une conception réaliste de la vie à retenir. Premier point, l'amour de l'argent ôte tout contentement. Alors pour commencer ce point, qui sera très certainement le plus conséquent des trois, permettez-moi de vous lire un extrait, ou l'extrait d'un article qui a été écrit par un grand économiste anglais qui s'appelle Richard Layard, ou Layard, qui a été, ou qui fut durant un grand nombre d'années, un des principaux conseillers économiques du premier ministre britannique Tony Blair. Alors il écrit ceci. Malgré l'augmentation de leurs richesses, les Occidentaux ne sont pas plus heureux qu'il y a 50 ans. Les enquêtes sur le bonheur menées en Angleterre, aux États-Unis, en Europe et au Japon montrent clairement que nous ne sommes pas plus heureux qu'avant. De plus, tous ces pays, sauf le Japon, ont connu ces dernières années, ces 50 dernières années, une augmentation des taux de dépression, d'alcoolisme et de criminalité. Dans les pays occidentaux, l'augmentation du bonheur n'a pas suivi celle de la richesse. Pourquoi un meilleur salaire ne rend-il pas plus heureux? Une des raisons, la rivalité. Autrement dit, la comparaison de notre revenu et de notre niveau de vie à ceux de nos voisins. Nous voulons être plus riches que les autres. Réponse de Layard à ce problème. Nous devons donc revoir les règles de société qui exacerbent l'importance du statut. Et dans ce sens-là, de la richesse que nous avons en comparaison donc à nos voisins. Trop de comparaisons peuvent rendre jaloux et donc moins heureux. Voilà donc ce qu'écrit cet économiste dans cet article. Alors, quand nous lisons l'extrait de cet article, bien force est de constater que cet homme fait écho à cette affirmation de l'apôtre Paul au verset 10 du texte de ce matin, qui dit ceci, « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Et il est intéressant de constater dans ce texte, et en particulier dans ce verset 10, mais aussi dans le verset qui le précède, que Paul va beaucoup plus loin dans l'analyse du problème concernant l'appât du gain. Il va plus loin en détaillant les étapes qui vont conduire un homme de la tentation d'avoir toujours un peu plus jusqu'aux pires souffrances. Et ces étapes sont les suivantes. Paul nous parle de tentation, de pièges, de désirs insensés, de perdition, d'éloignement de la foi et de douleur. Je le répète, par ces mots, Paul explique clairement comment certains tombent dans l'amour de l'argent et décrit les implications désastreuses qui s'ensuivent nécessairement s'ils ne se reprennent pas, et en particulier s'ils ne se repentent pas de ce mal. Considérons ces étapes. La première, Paul nous dit, est la tentation. Voilà donc ce premier principe, la cupidité, cet attrait, cet intérêt pour avoir toujours un peu plus de richesse. Cette cupidité, donc, commence par l'attrait de l'argent et des richesses. Pourquoi? Parce que, pour certains, la potentialité de puissance, de sécurité, de valorisation et les promesses d'épanouissement de l'argent les séduisent. Et dès lors, devant toutes ces potentialités, eh bien, ils décident volontairement, tentés par cela, ils décident volontairement de faire de leur acquisition, de l'acquisition de l'argent, de l'acquisition de biens, le but essentiel, voire exclusif de la vie. Qu'est-ce qui s'ensuit, nécessairement? Il s'ensuit que désormais, tout le reste, la vie avec Dieu, la vie familiale, le travail, les relations sociales, tout cela passera après. Ou, pourrait-on dire, ne sera considéré et vécu qu'en fonction de cet appât du gain. Ainsi, au nom de la cupidité, on ne s'occupera pas ou on s'occupera mal des siens. Au nom de la cupidité, on calculera notre rapport au travail et avec les autres en fonction de cela. On ne donnera, pour les chrétiens, si tant est qu'on le soit, plus sa dîme à l'Église. On ne calculera finalement ces relations qu'en fonction de ce que cela nous rapporte. Donc, premier piège, première étape, la tentation dans laquelle on tombe. Et Paul nous dit ensuite que le piège se referme. Voilà la deuxième étape. Dès lors que l'on a décidé volontairement de soumettre sa vie à Mammon, je vous rappelle que Mammon est le dieu de l'argent, eh bien le diable, nous dit Paul, nous tient dans ses griffes. On devient son esclave. Et ce qui est pathétique, c'est de se rendre compte ou de constater que la pseudo-liberté que devait pourtant nous donner l'argent, nous apporter l'argent, va se transformer ou se transforme en une sorte de filet étouffant duquel on ne peut, on ne sait et même on ne veut pas être délivré. Tellement cela nous possède. Tellement ce piège s'est refermé sur nous. Et l'enfer est devenu réalité. Paul nous dit ensuite que cet attrait pour l'argent, après qu'il se soit refermé sur nous comme une trappe, comme un piège, comme un filet, fait place à des désirs insensés et pernicieux. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, cela signifie que la cupidité est effectivement à la source de beaucoup de péchés, selon l'Écriture. Ainsi, celui qui est intérieurement prisonnier de l'appât du gain va apprendre doucement, mais certainement à voler, à mentir, peut-être même à tuer. On peut également dire, et on le sait, on le constate, que l'immoralité peut surgir pour gagner toujours un peu plus. Voler. La liste que je ferai ce matin n'est de loin pas exhaustive, mais vous y reconnaîtrez peut-être certains exemples que vous entendez, peut-être personnels. Voler, ce peut être par exemple le temps que l'on doit à son employeur, afin de vaquer à d'autres occupations, peut-être plus rémunératrices, je pense au travail au noir. Voler, ce peut être également voler les biens matériels de son employeur, discrètement. Mes enfants ont besoin de crayons Carandache, ils sont à disposition, 2-3 crayons en moins. Finalement, ces entreprises sont si riches, font tellement de bénéfices. Mentir. Mentir comment? Mentir en gonflant la note de frais. Mentir en déclarant comme utilisé ou disparu tel ou tel matériel que l'on va garder ou revendre. Il peut également s'agir d'arnaque à l'assurance. Se faire rembourser quelque chose finalement qui n'a pas été abîmé ou qui n'a pas été utilisé. Le pays d'à côté, d'où je viens, est devenu champion à ce niveau-là. Tenter d'obtenir des prestations sociales auxquelles nous n'avons pas droit, etc., etc. Voler, mentir, tuer aussi. Combien aujourd'hui sont prêts à mettre en péril la santé, l'intégrité physique de leurs contemporains? Comment? Peut-être, et encore une fois, les exemples ne sont pas exhaustifs, enfin la liste n'est pas exhaustive. Comment, eh bien, certains propriétaires seront capables de louer des appartements délabrés et dangereux à prix d'or? D'autres seront prêts à vendre toutes sortes de matériel ne respectant pas les normes de sécurité. J'entendais parler l'autre jour de ces marchés parallèles pour le matériel de voiture, de freins qui sont vendus, qui viennent de je ne sais trop quel pays, et qui, alors évidemment, ne vous coûtent pas cher, mais le jour où vous voulez les utiliser sur autoroute, vous avez intérêt à vraiment garder vos distances avec le véhicule de devant. Si vous ne voulez pas, allez vous encastrer en lui, sans compter les médicaments et je ne sais trop quoi qui est revendu encore aujourd'hui. Voler, c'est aussi peut-être, pour certains enfants devenus âgés, attendre impatiemment, voire souhaiter, que les parents ou grands-parents s'en aillent pour mettre la main sur le magot. Je parlais d'immoralité aussi. Nous savons que l'appât du gain va en conduire certains au pire des extrémités, comme la prostitution ou le proxénétisme. Nous savons, c'est vrai, que certains sont obligés de faire cela ou se sentent obligés de le faire pour survivre. Mais je ne parle pas de cela. Je parle vraiment de l'intérêt d'avoir toujours un peu plus. Paul nous dit que les fruits de ses désirs sont la ruine et la perdition. Il est intéressant de savoir que ce qui est écrit au verset 9 par rapport à cet appât du gain qui plonge dans la ruine et la perdition, le mot « plonge » fait référence à un bateau qui est en train de couler sous le poids ou sous la surcharge de marchandises. Quel est le sens? Le sens est le suivant. L'image est la suivante. Une vie consacrée exclusivement à l'appât du gain va couler corps et âme. Et il est ici question d'une ruine et d'une perdition qui est non seulement morale, mais souvent physique aussi, financière, familiale et sociale. Et disons spirituellement que c'est le gâchis et la ruine éternelle de l'âme qui s'est abandonnée à ce gouffre sans fond, qu'est celui de l'appât des richesses, l'appât du gain. Chers amis, combien d'hommes et de femmes ont fini et finissent aujourd'hui encore misérablement parce qu'ils ont voulu toujours, toujours un peu plus, croyant que le bonheur, leur bonheur, était attaché à la quantité de zéros qui se trouvait sur leur compte en banque et à la quantité de biens qu'ils avaient à la maison. Un auteur a écrit ceci à propos de cet anéantissement à cause de la cupidité. La destruction est complète. Il y a une ruine totale du bonheur, de la vérité, de la réputation et de l'âme. Le désir dominant de s'enrichir engendre une succession ininterrompue de folies qui ruinent tout, non seulement ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Nombreux sont les membres de la grande famille humaine à avoir ainsi été détruits. Paul nous dit encore, ça tombe sous le sens, qu'ils s'éloignent de la foi, ceux qui sont ainsi cupides. C'est une évidence, pourquoi ? Eh bien parce que lorsque l'or et l'argent prennent la place de Dieu, eh bien ceux qui s'y adonnent négligent nécessairement ce qui concerne Dieu, les choses spirituelles. Le pire ennemi de Dieu est l'attrait de l'argent, ou en tout cas un des ennemis de Dieu est l'attrait de l'argent. Et à propos de cet éloignement, dû à l'attrait de l'argent, à la cupidité, rappelez-vous des paroles du Seigneur Jésus lui-même dans le Sermon sur la montagne au chapitre 6. Il dit ceci, réfléchissez bien, réfléchissons tous à ces paroles solennelles. Là où est ton trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si votre trésor, c'est votre compte à l'UBS, au Crédit Suisse, à la Raiffeisen ou que sais-je encore, c'est là où se trouve votre cœur, mes amis, ce matin. Nul ne peut servir de maître, continue-t-il, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qui servez-vous ce matin ? Y en a-t-il parmi nous qui servent Mammon ? Ne vous leurrez pas, les amis. Si vous servez Mammon, vous ne pouvez pas servir Dieu. On sert l'un ou on sert l'autre. Et là, il n'y a pas à être suisse dans ces cas-là. Ils sont enfin soumis à bien des tourments, termine l'apôtre Paul. J'aimerais lire ce qu'a écrit à ce propos J.C. Ryle, ce grand théologien anglais. Il a écrit ceci. « En vérité, l'argent est une des possessions qui procure le plus d'insatisfaction. C'est vrai qu'il élimine certains soucis, mais il en crée autant qu'il en supprime. Il y a le mal que l'on se donne pour l'acquérir. Il y a l'anxiété pour le conserver. Il y a les tentations quant à la manière de le dépenser. Il y a la culpabilité quand on en abuse. Il y a la tristesse quand on le perd. Il y a la perplexité quant à la façon d'en disposer. Deux tiers de toutes les luttes, des querelles et des procès dans le monde ont une seule et même origine, l'argent. » Cet homme savait de quoi il parlait, non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il connaissait bien la matière humaine, si je puis m'exprimer de cette façon-là. Alors voilà donc, d'après l'apôtre, ces différentes étapes qui peuvent conduire un homme de la simple tentation au départ de posséder un peu plus, toujours un peu plus et encore un peu plus. Il semble, dans un article que j'ai lu cette semaine, que ceux qui sont riches, dans nos pays en particulier, aimeraient avoir un quart de plus que ce qu'ils ont pour être sûrs d'être vraiment à l'abri. Mais une fois qu'ils auront ce quart, ils espéreront encore le quart supplémentaire car ils auront rehaussé leur niveau de vie. Donc voilà ces étapes qui peuvent conduire un homme de la tentation de posséder un peu plus à la ruine de sa vie. Mais alors que nous conseille l'apôtre Paul pour vivre dans le contentement en échappant à ce piège, tout en ayant de l'argent, tout en consommant, puisque cela, je vous le rappelle, est juste. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais en soi, mais l'amour de l'argent, la soumission au Dieu Mammon. La piété et la simplicité, secret du contentement. C'est mon deuxième point. Voilà le secret que Paul donne pour vivre satisfait dans un monde fait de convoitises et de luttes afin de posséder toujours un peu plus d'argent et toujours un peu plus de biens. C'est une grande source de gain que la piété, écrit l'apôtre, si l'on se contente de ce que l'on a. Alors, la question est celle-ci, mais que convient-il de comprendre dans cette affirmation de l'apôtre ? Nous devons comprendre que le contentement, la joie, la richesse, la vraie richesse, même au sein d'une société qui est vouée à Mammon, provient de deux sources complémentaires. La première source est celle-ci. Elle consiste à demeurer attaché à Dieu, à faire de l'Éternel nos délices. Voilà le premier secret. Trouver sa richesse en Dieu. Et ensuite, à se réjouir de ce que Dieu nous donne pour satisfaire à nos besoins. Alors regardons ces deux réalités complémentaires. La piété, nous dit l'apôtre, l'attachement à Dieu. Le vrai contentement consiste, premièrement, à faire de Dieu l'objet de ses recherches, l'objet de sa pensée. Rappelez-vous, si vous vous en souvenez, si vous connaissez ce texte, que la première question du petit catéchisme de Westminster est la suivante. Et même s'il a été écrit il y a bien des siècles, il est encore très pertinent pour nous aujourd'hui. Cette première question est celle-ci. Quel est le but principal de l'homme ? Et la réponse est simple. Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Et non pas de glorifier l'argent, l'or, mon compte en banque, et de trouver en lui mon bonheur éternel, en Dieu. À propos de cette joie en Dieu, Jérémie écrit ceci. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Et écoutez bien la suite. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Le roi David nous donne le merveilleux exemple d'un homme qui a appris à faire de l'Éternel ses délices. David nous donne le merveilleux exemple de celui qui a appris à faire de l'Éternel son gain, sa richesse. Il écrit ceci. C'est un psaume, le psaume 63, qui a été écrit lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Réfléchissez bien. Certains d'entre nous pourraient dire « Ô mon argent, mon franc suisse, mon compte en banque, ma carte Visa, mon Eurocard, ma Mastercard, je ne sais plus, enfin il y en a toute une série, hein, d'accord ?»« Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bienveillance est meilleure que la vie. » Mes lèvres te glorifieront. Ainsi je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. L'acclamation aux lèvres, ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Il est pathétique. Chers frères et sœurs, il est merveilleux de lire ce texte à propos de l'Éternel, mais il est pathétique d'imaginer que certains pourraient dire aujourd'hui, à propos de l'argent, « Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours. » La vraie source de gain pour David était l'Éternel, la vraie joie, le vrai bonheur. Ainsi donc, la personne pieuse n'est pas motivée par la cupidité. Son véritable gain, sa véritable richesse et son amour pour Dieu. Elle recherche son contentement dans la présence et la communion avec Dieu. Et elle peut ainsi dire avec cet autre psalmiste, Asaph, à la fin du psaume 73, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, c'est mon trésor, m'approcher de Dieu. » Voilà le premier élément. Faire de l'Éternel ses délices, trouver en l'Éternel, en sa communion, en sa relation, la véritable richesse et le vrai gain. Mes amis, peut-être vous dites-vous, oui, quand on a un compte bien rempli avec suffisamment de zéros, alors on peut faire de l'Éternel ses biens. Non, j'ai connu et je connais encore des personnes qui sont modestes, qui ont peu d'argent, mais qui font réellement de l'Éternel leur joie. J'en connais d'autres qui étaient comme cela, mais dès lors qu'elles ont gagné un peu plus d'argent, le véritable gain était leur compte en banque et l'inquiétude arrivait. Que nous dit l'apôtre ensuite? La deuxième étape, le deuxième point complémentaire, c'est la satisfaction ensuite de ce que Dieu donne. Si l'on trouve son gain et son bonheur en Dieu plutôt que dans les richesses de ce monde, eh bien, chers amis, on sait dès lors se satisfaire de ce qu'il nous donne financièrement. Parce que Dieu s'occupe, comme nous l'avons vu une de ces dernières semaines, fidèlement de nous. Ne vous inquiétez de rien, faites-lui connaître tous vos besoins par des prières, avec des supplications et des actions de grâce. Philippiens 4, 19, la fin du texte d'il y a 15 jours. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est vrai que Dieu ne fera peut-être pas de nous, chers frères et sœurs, les gens les plus riches de Suisse. C'est déjà pas mal de vivre en Suisse avec ce que nous avons. Si l'on compare à ce qu'ont nos contemporains aujourd'hui. C'est vrai que nous ne posséderons peut-être pas les derniers articles à la mode. Nous n'aurons peut-être pas les comptes les mieux fournis. C'est vrai. Mais une chose est certaine. Si nous apprenons à trouver premièrement en Dieu la source de notre joie et notre vraie richesse, et à nous satisfaire ensuite matériellement de ce qu'il nous donne dans sa fidélité. Alors nous serons véritablement paisibles. Alors nous serons véritablement heureux en lui et nous échapperons dès lors à cette tentation, à ce piège de la cupidité, avec son lot, je vous le rappelle, de désirs pernicieux, avec son lot de ruines et avec ses souffrances. Faire de l'Éternel mon gain, ma richesse, me satisfaire de ce qu'il donne, avec les sacrifices, peut-être, qui y sont attachés par rapport à ce qu'ont mes contemporains autour de moi. Pour vous convaincre encore, si tant est que je puisse le faire, c'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui convainquent, concernant la modestie matérielle que devrait rechercher le chrétien en se satisfaisant de ce que Dieu lui donne, et en ne recherchant pas toujours le dernier cri, faisons nôtre cette prière de l'auteur des Proverbes, prière si mesurée, ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de Dieu. Voilà donc la réponse de l'apôtre, chers frères et sœurs, pour échapper à l'appât du gain et à la cupidité, trouver en Dieu son vrai trésor et se satisfaire de ce que nous recevons de sa main, sans chercher toujours plus, sans nous confier d'abord dans nos comptes en banque et dans nos richesses. Le troisième et dernier point, une conception réaliste de la vie à retenir. L'apôtre Paul, pour nous aider à comprendre ce qu'il nous explique dans ce texte, que j'ai essayé de vous transmettre maintenant, c'est-à-dire de ne pas succomber à cet appât des richesses et de la consommation à tout prix, l'apôtre Paul nous rappelle deux réalités qui caractérisent tout être humain et que nous devrions garder à l'esprit, et que je vous invite à garder à l'esprit ce matin, dès lors peut-être que vous êtes tenté par l'appât du gain, par la cupidité. La première de ces réalités est celle-ci. Nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Et la seconde, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Voilà une réalité très simple, pardonnez-moi la paraphrase. Nous sommes arrivés ici-bas nus, et nous en repartirons de la même façon, même si nous aurons un pantalon, une chemise ou une robe. Mais disons, nous n'emporterons rien de ce que nous avons acquis derrière nous dans notre tombe. Et chers amis, notre compte en banque, nos richesses, tout ce que nous avons fait ici-bas, tout ce que nous aurons gagné ici-bas, ne servira à rien lorsque nous passerons devant notre Dieu. Job, à ce propos, ne se leurre pas, puisqu'il écrit ceci. « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. » L'auteur de l'Ecclésiaste va exactement dans le même sens, puisqu'il écrit ceci, « Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. » Si nous sommes venus sans rien et nous ne repartons sans rien, eh bien, chers frères et sœurs, sachons ne pas faire de l'avarice et de la cupidité le but de notre vie. Mais retenons au contraire cette exhortation qui se trouve un peu plus loin au verset 17 de ce chapitre 6 d'1 Timothée. Dans ce verset 17, Paul dit ceci à son fils spirituel dans cette église si difficile d'Éphèse. Il lui dit « Recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir. Dis-leur, et écoutez bien, de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu qui nous accorde tout avec abondance pour que nous en jouissions. Recommande-leur, écoutez bien, de faire le bien, d'être riche en actions bonnes, d'être généreux et prêt à partager avec autrui, qu'ils s'amassent ainsi un bon et solide trésor pour l'avenir afin d'obtenir la vie véritable. » Faisons confiance à Dieu. Soyons riches en actions bonnes et en générosité, chers frères et sœurs. Pour être riche en actions bonnes et en générosité, eh bien, il faut savoir se satisfaire de ce que Dieu nous donne, se satisfaire d'une vie simple, et savoir aussi considérer les besoins des autres. Cela signifie nécessairement, à un moment donné, savoir dire stop, se restreindre, se limiter. Permettez-moi encore cette illustration à propos de cet or que nous ne pouvons pas transporter après notre mort. Alexandre le Grand, dont vous avez tous entendu parler, sur le point de mourir, demanda trois choses à ses généraux à propos de ses obsèques. La première des choses qu'il demanda, c'est que son cercueil soit transporté à bras d'hommes par qui ? Par les meilleurs médecins de l'Empire. La deuxième chose qu'il demanda, c'est que les trésors qu'il avait acquis, qui étaient en grand nombre, argent, or et pierres précieuses, soient dispersés tout au long du chemin qui transporterait son cercueil jusqu'à sa tombe, d'accord, répandus tout au long du chemin. La troisième chose, vous allez trouver ça peut-être un peu lugubre, c'est que ses mains restent à l'air libre, balançant en dehors de son cercueil. Un de ses généraux qui entendit cela fut étonné. Voilà, le voir et lui dit, mais pour quelle raison tu nous demandes de faire cela? Ces requêtes sont assez insolites, explique-moi pourquoi. Et les explications d'Alexandre le Grand semblent avoir été celles-ci. Tout d'abord, il voulait que les médecins les plus éminents transportent eux-mêmes son cercueil pour démontrer que face à la mort, ils étaient incapables de le guérir. Et c'est encore pareil aujourd'hui, si Dieu a décidé qu'il rappelle quelqu'un à lui, pour qu'il soit dans sa présence ou hors de sa présence, même les meilleurs médecins, Émilie pourra vous le dire, et d'autres encore ne pourront rien y faire. Deuxièmement, pourquoi voulait-il que le sol soit recouvert de trésors ? Pour que tous puissent voir que les biens matériels ici acquis restent ici-bas. Qu'on ne les emporte pas avec soi. Et pourquoi voulait-il que ses mains soient ballantes à l'extérieur de son cercueil ? Eh bien, il voulait qu'elles soient ainsi pour que les gens puissent voir que nous arrivons dans ce monde les mains vides, et les mains vides, nous en repartons quand s'épuise pour nous le trésor le plus précieux qui soit, c'est-à-dire le temps, pour un être humain, et surtout pour un être humain qui ne connaît pas Dieu. Un théologien a écrit à ce propos ceci. Oui, ses mains, donc celles d'Alexandre le Grand, qui avaient tenu le sceptre le plus orgueilleux du monde, ses mains qui avaient manié l'épée des plus grandes victoires, ses mains qui avaient été autrefois remplies d'argent et d'or, ses mains qui avaient le pouvoir de faire vivre et de faire mourir par un seul trait de plume, ses mains étaient maintenant vides. Complètement vide. Paul nous dit enfin, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Cela nous suffira. C'est quand même intéressant comme remarque. Cela nous suffira. On le lit souvent et on passe sur ce mot et en y réfléchissant hier, je me dis, cela nous suffira. Mais c'est une expression qui n'existe plus. Cela me suffit, j'ai pas besoin de plus. J'ai largement de quoi pourvoir à mes besoins et le reste ne serait que superflu. Ces expressions n'existent plus ou quasiment plus. Et pourtant, l'apôtre nous invite ainsi à la modération dans nos possessions. La référence qu'il fait à la nourriture et aux vêtements, et quelque part avec le vêtement, le toit qui nous revêt, qui permet de nous protéger de la pluie, du froid, des rayons du soleil. Cette référence faite à la nourriture et aux vêtements nous exhorte à rechercher ce qui est nécessaire en évitant de tomber dans la surconsommation ou dans la consommation à outrance. Alors c'est vrai que dans notre société du XXIe siècle, nous devons avoir certainement plus que ce que nos arrière-grands-parents avaient. Ils n'avaient peut-être pas besoin de téléphone, peut-être pas besoin d'Internet pour leur courrier, d'autres choses dont nous avons besoin aujourd'hui pour vivre, c'est vrai. Mes chers frères et sœurs, sachons comprendre cette exhortation dans ce sens que nous devons apprendre à nous satisfaire de moins que ce que le monde nous propose, du nécessaire, de faire preuve de simplicité, comme je vous le disais. Nous n'avons pas besoin nécessairement du dernier ordinateur, du dernier Mac qui sort, du dernier Natel, du dernier appareil photo, de la dernière voiture, des derniers vêtements, du dernier vélo, de toutes les options qui peuvent exister. Si vous êtes comme moi, vous constaterez, enfin peut-être que vous ne l'êtes pas d'ailleurs, mais moi quand j'ai un Natel ou un ordinateur, je n'utilise qu'une infime partie de tout ce que l'on me propose, réellement. Satisfaisons-nous de plus de simplicité, même si nous n'avons pas les choses au dernier cri, même si nous ne sommes pas à la mode, même si nous sommes moins impressionnants par rapport à nos voisins. Et pour le reste, soyons trouvés généreux. Généreux à l'égard du Seigneur, de son Église, généreux à l'égard de notre prochain. Je conclus. Nous venons de voir avec l'apôtre les pièges de la cupidité et la nécessité de savoir trouver notre vrai gain, notre contentement en Dieu et dans la satisfaction des biens que sa main nous donne. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques conseils qu'un pasteur a donné un jour à ses paroissiens, afin qu'ils vivent libres de la tyrannie de la consommation. Il leur dit ceci, et prenons-le chacun de nous pour nous-mêmes, et réfléchissons à ces paroles. Il leur dit, réalisez tout d'abord que tout ce que vous avez appartient au Seigneur, et que vous en êtes les économes ou l'économe, et que vous aurez donc à lui en rendre compte. Mes biens viennent de la bonté du Seigneur. Certes, j'ai travaillé, mais c'est en vertu de sa fidélité que j'ai pu travailler et recevoir ses biens de sa part. Je dois les gérer à sa gloire, et je devrais lui en rendre compte. Entretenez ensuite un cœur reconnaissant pour ce que vous recevez, vous souvenant que Dieu ne vous doit rien. A contrario, nous avons souvent le réflexe inverse qui est celui de l'ingratitude. J'aime, mais je veux toujours un peu plus et je regarde toujours ce qu'a l'autre à côté de moi, alors que j'ai déjà beaucoup. Apprenez également à distinguer, ça fait référence à ce que nous avons vu il y a 15 jours, entre vos désirs et vos besoins. Vous vous rappelez que l'on confond souvent désir et besoin. Ce que je désire, je vais l'appeler très souvent besoin pour justifier son achat ou son acquisition, alors qu'il ne s'agit finalement que d'un désir qui a été créé, puis qui n'était pas nécessairement d'un besoin absolu. Disciplinez-vous à dépenser moins que ce que vous gagnez. Pourquoi ? Parce que la facilité d'acheter à crédit est devenue une tentation et une grande source de dette pour les foyers. On peut, de temps en temps, faire des emprunts, etc., quand il y a réellement une nécessité. Mais si c'est pour acquérir le dernier pull ou la dernière veste, le dernier Dolce & Gabbana ou je ne sais quoi à la mode, non. Et enfin, apprenez finalement à faire des sacrifices, dit ce pasteur, pour le Seigneur, en faisant preuve de générosité envers son Église et envers ceux qui sont dans le besoin. Mes amis, si l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, dans nos pays, agissait de cette façon, il y aurait beaucoup plus de pasteurs dans les églises, il y aurait beaucoup plus de missionnaires dans le monde. Vous pouvez en être certains. Si la générosité caractérisait, dans notre monde occidental, l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde de méditer, de réfléchir à toutes ces réalités et de trouver en Dieu et dans la simplicité le contentement. Amen. Éternel notre Dieu, alors que nous sommes, c'est vrai, dans une société dans laquelle un grand nombre croit pouvoir répondre à l'aspiration profonde de leur âme par le biais des biens matériels, et de leur acquisition comme pour remplir, Seigneur, ce vide, parce qu'ils ne t'ont pas. Et que, Seigneur, malheureusement, parfois, nous avons cette tendance à les suivre. Il est bon de voir que, Seigneur, tu prends soin de nous, dans nos corps et dans nos âmes. Que, Seigneur, ce manque qui était le nôtre, lorsque nous étions sans toi, tu l'as comblé en Jésus-Christ. Et que nous pouvons trouver, par notre communion avec toi, vraiment cette plénitude, cette joie, ce contentement. Et que, Seigneur, d'un point de vue physique et matériel, parce que les biens matériels sont une réalité qui est là, et Seigneur, que tu désires nous vêtir, nous donner à manger, etc. Seigneur, que dans ce domaine-là, tu réponds aussi à nos besoins. Quelle grâce éternelle que de pouvoir ainsi avoir la paix, la joie, le contentement en toi, Seigneur, et apprends-nous à le trouver ou à le retrouver, ou à continuer de vivre cette joie, ce contentement, et de savoir nous satisfaire, Éternel, des bienfaits que tu nous donnes, et de savoir aussi, Seigneur, être généreux, mais de ne pas rentrer dans cet esprit consumériste de notre société. Vraiment que tu nous accordes d'être ainsi, par cet équilibre dans notre vie, un témoignage à ta gloire, une fois de plus. Et que vraiment ce contentement et cette joie en toi, par ce que tu nous donnes, par ce que tu es, Éternel, et par ce que tu fais pour nous, que vraiment ce contentement et cette joie puissent vraiment rayonner autour de nous et en attirer un grand nombre à toi. Telle est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.